Et en parlant de sport, le championnat de Belgique de football reprenait ce week-end et dès vendredi soir vers 20h45, traditionnellement c'est le champion en titre qui a démarré cette saison 2026-2027 de football en accueillant chez lui son voisin géographique de Courtrai. C'est le club de Bruges donc qui l'a emporté 3-0 en brillant de temps en temps mais n'était pas tout le temps flamboyant. Courtrai qui a montré, lui qui était un club qui vient de division 1B, c'est-à-dire qu'ils viennent d'être promus, ils ont montré de belles choses et ne devraient pas végéter dans les profondeurs du classement s'ils continuent de jouer de la sorte. Samedi soir avait lieu aussi quelques matchs et notamment le Dauphin du club de Bruges, l'Union Saint-Gilloise qui se déplaçait à Westerlo, un déplacement toujours bien délicat pour deux équipes qui évoluent traditionnellement en jaune et bleu. Et pour le coup, eh bien, Westerlo avait ouvert la marque et c'est pour le moment ce qui arrive le plus souvent à l'Union. Elle se retrouve très souvent menée au score et elle a réagi puisque le score final était de 1-5 après une première mi-temps assez indigne de son statut. L'Union s'est bien reprise et donc victoire finale 1-5 avec 5 buteurs différents, ce qui est intéressant à noter. Et Lommel, l'autre promu Lommel, ils ont partagé l'enjeu. 1-0, et quand on sait qu'à Saint-Trons, c'est un terrain synthétique où il n'est jamais aisé de se déplacer, ça ne rend la performance de Lommel que plus louable. Le Standard de Liège, lui, accueillait le Cercle de Bruges, et on lui promettait une victoire, et nos amis rouges et liégeois, donc, s'attendaient à avoir 3 points au compteur, et bien il n'en fut rien, puisque le Standard n'a pas pu faire mieux que de partager l'enjeu. 2-0, c'était samedi soir. Hier avait lieu, vous le savez, cette année, le championnat de Belgique a changé de configuration, il n'y aura plus de play-off, donc nous avons une première division avec 18 équipes et donc 34 journées de championnat. Et bien hier, la Gantoise a bien commencé sa saison en se défaisant du football club malinois 2-0. Le club de Zulte Waregem a créé la surprise en battant Genk 2-1. Genk qui chaque année est un candidat affiché ou au titre ou en tout cas aux accessites pour l'Europe. Genk qui a déjà perdu 3 points précieux. Charleroi, quant à lui, n'a pas fait dans le détail. Il a battu OHL, le club louvainiste, 3-1. Le club louvainiste qui s'est retrouvé à 10-11 après l'exclusion d'un de ses joueurs. Forcément pareil, l'exclusion d'un joueur de la Louvière a probablement précipité la défaite de la Louvière sur le terrain d'Anderlecht. Anderlecht qui a gagné, donc 2-1, mais dans la douleur, dans les arrêts de jeu, Adriano Bertaccini a donné la victoire aux Mauves alors que la Louvière menait au score 0-1 et se sont fait rejoindre et dépasser par Anderlecht en toute fin de match. Et enfin, même score, 2-1 pour l'Antwerp, le club anversois qui a connu son nouvel entraîneur qu'il y a quelques jours à peine. Eh bien, l'Antwerp a battu Waasland, l'autre, encore le troisième montant de division inférieure, 2-1, voilà pour le football belge. On jouait également les premiers matchs, je pense, en Hollande. L'Ajax d'Amsterdam a gagné, le PSV également. On va parler maintenant peut-être de foot avec vous, mon cher Jonathan aussi, de mercato, mais une question me vient, est-ce que le championnat israélien a déjà commencé ou ils sont toujours en vacances, Jonathan ?
Non, ils ont repris en Israël. Il y a ce qu'on appelle la Coupe de la Ligue, la Coupe Toto en Israël. Et on joue les premiers matchs de la saison. Vous le savez, en Israël, les clubs sont déjà sur le pont très tôt, dès le mois de juillet, pour participer au tour préliminaire des différentes Coupes d'Europe. Alors, ça ne s'est pas très bien passé pour le Maccabi Tel Aviv, notamment face au CSKA Sofia la semaine dernière, une défaite 2-0 sur son terrain qui compromet fortement les chances des jaunes à participer à une Coupe d'Europe cette saison. Ce sera aussi difficile pour l'Apoel Beersheva d'accéder au groupe, à la phase de groupe de Ligue des Champions. Donc pour les clubs israéliens, déjà la saison européenne s'annonce assez compromise, je dirais, Didier.
Bien, ben, écoutez, on verra bien ce qu'il en est, puisqu'il y a des matchs retour qui auront lieu cette semaine. Ce sera peut-être l'occasion pour nous d'en reparler lundi prochain avec, je l'espère, de bonnes nouvelles. À noter que les clubs belges, la semaine dernière, en Europe en tout cas, ont pris des points à UEFA, comme on dit, puisque à la fois la Gantoise et Anderlecht aussi ont été gagnés à l'étranger, alors que il y a le troisième club dont le nom m'échappe maintenant, qui a fait match nul, donc par là même, c'était l'Union d'ailleurs, qui a fait match nul à Bodø/Glimt, pardon. On n'a pas de défaite, donc c'est bien, on a pris des points à UEFA, comme on dit. On va parler encore foot.
L'Union qui va perdre Hanan Khalagli, qui va donc signer à Crystal Palace, son joueur israélien, il faut le noter.
Ah oui, Khalagli qui avait raté, vous le savez, son transfert à Milan pour des raisons, il n'a pas réussi plutôt ses tests médicaux. Apparemment à Crystal Palace, oui, et donc on parle aussi, d'ailleurs pour l'Union, c'est pas un gros manque à gagner, puisqu'on parle d'un transfert avoisinant les 30 millions d'euros quand même. On sait que les Anglais en général ne sont pas avares en matière de transfert. C'est quand même pas pour rien que la Premier League est, je dirais, le championnat le plus riche d'Europe, voire du monde même. On va continuer à parler mercato avec Romelu Lukaku, notre buteur absolu, notre serial buteur belge, qui lui a quitté Naples et va se diriger direction la Turquie, comme beaucoup d'ailleurs de gros cylindrés du foot mondial, à Fenerbahçe exactement. Mais vous avez encore d'autres nouvelles à nous donner du côté du mercato, mon cher Jonathan.
Je vais parler d'un joueur belge qui est suivi par un grand club, le Paris Saint-Germain, en l'occurrence Mika Götze, qui est milieu offensif, qui joue plutôt sur le côté, je crois, Didier, du côté de l'Ajax, côté gauche, qui peut se déplacer sur tout le front de l'attaque. Donc, pour le Paris Saint-Germain, selon certaines informations que j'ai pu recueillir auprès des journalistes sportifs en Belgique, c'est un grand joueur, c'est un futur grand joueur en Belgique, qui possède des qualités de passe assez intéressantes, qui est aussi un buteur, puisque la saison dernière il a marqué plus de 10 buts et a délivré plus de 10 passes décisives. Donc c'est tout de même à noter dans une équipe comme l'Ajax d'Amsterdam, qui pratique un football, on le sait, assez léché. Donc pour remplacer pourquoi pas Bradley Barcola, qui est en partance du Paris Saint-Germain, pourquoi pas qui pourrait se diriger vers Liverpool, mais le Paris Saint-Germain souhaite le vendre à prix fort aux Reds de Liverpool. On parle d'un transfert qui pourrait avoisiner les 170 millions pour l'international français. Donc il y a un gros mercato du côté du Paris Saint-Germain, qui a vu aussi hier la signature de Lucas Digne et jeudi dernier la signature de Meknès Akliouch, qui est aussi un international français qui évoluait du côté de Monaco, Didier.
Bien, on sait aussi que les Parisiens ont quand même des moyens assez importants, mais à noter aussi que sous la patte de Luis Enrique, il n'y a plus de Messi, de Ronaldo, etc. Ils ont décidé de créer une équipe plutôt qu'un ensemble d'individualités, et ça leur réussit plutôt bien, puisqu'ils ont gagné deux Champions League de rang, et probablement qu'ils seront des candidats à leur propre succession cette année, on verra bien. On va quitter le monde du foot et on va se retrouver du côté du vélo. Alors, il y a à peine, on est encore des étoiles plein les yeux avec Tadej Pogacar dans le Tour de France masculin. Et la semaine dernière avait lieu le Tour de France féminin. Bien sûr, beaucoup moins d'étapes, une semaine de Tour de France, mais du très grand et du très beau spectacle et beaucoup de suspense, puisque hier avait lieu la toute dernière étape et vous le savez, le Tour de France masculin se termine traditionnellement sur les Champs-Élysées. Eh bien, pour les femmes, il n'en est rien. Ça se terminait à Nice, sur la promenade des Anglais, en plus. Et à la veille, et au moment de donner le départ de cette dernière étape, il n'y avait que 8 secondes qui séparaient les deux premières du classement, à savoir la Hollandaise, la Néerlandaise, Demi Vollering, et sa challengeuse, on va le dire comme ça, une Polonaise dont le nom m'échappe complètement, c'est-à-dire Denia Numa, quelque chose comme ça. Mais en attendant, on sait peut-être pas bien prononcer son nom, mais je peux vous dire qu'elle pédale solide. Et comme il y avait dans cette étape, cette dernière étape, 5 montées vraiment très compliquées à gérer, 5 fois la même d'ailleurs, eh bien, que s'est-il passé, mon cher Jonathan?
Bien, ça a été une dernière étape de assez mouvementée, puisque Demi Vollering, qui avait déjà remporté le Tour de France féminin il y a de cela 3 ans, a arraché son maillot jaune dans les dernières encablures de cette étape. À noter aussi, Didier, l'abandon de la tenante du titre, Pauline Ferrand-Prévot, la Française, qui a abandonné lors de la 7e étape de ce Tour de France féminin, et elle regrette notamment la Lyonnaise d'avoir pas pu défendre son titre jusqu'au bout. Elle était déjà distancée, il faut le dire, dans ce Tour de France. Elle avait beaucoup moins de chances de remporter la partie cette année, et donc c'est Demi Vollering qui avait remporté déjà le Giro cette année, et qui s'impose dans ce Tour de France féminin, qui a tenu toutes ces promesses, Didier.
Ah ben, tant mieux et chapeau. On sait que le cyclisme néerlandais est vraiment un cyclisme juste exceptionnel. Et on va terminer en boulet de canon et hyper rapidement avec un grand cocorico côté israélien. Avec aussi, on en a parlé dans les journaux la semaine dernière, avait lieu à Abu Dhabi les championnats du monde de jiu-jitsu pour les jeunes, si je ne m'abuse. Et les Israéliens ont fait une belle moisson de médailles, dont une médaille d'or. Ça veut dire que la Hatikva a retenti à Abu Dhabi et sans aucun sifflet, s'il vous plaît.
Sans aucun sifflet, sans aucune manifestation hostile. Aujourd'hui, il y a des relations normalisées, apaisées entre Israël et les Émirats arabes unis. Donc, la Hatikva a retenti pour Guy Torres, qui a été sacré champion du monde des moins de 18 ans dans la catégorie des 62 kilos. Tandis que Tamir Naïm a décroché aussi la médaille de bronze dans la même catégorie. Chalio Sneer a remporté, lui, la médaille d'argent dans la catégorie des 56 kilos. Et Eden Gamliel a également décroché l'argent chez les moins de 18 ans dans la catégorie des 69 kilos. Et donc, la Hatikva a retenti à Abu Dhabi. Vous le savez, Didier, Israël met un point d'honneur à briller dans tous les sports de combat, que ce soit le jujitsu, que ce soit le karaté, le taekwondo, mais aussi, bien évidemment, en judo, où il y a, on le sait, des moissons de médailles lors des championnats du monde, lors des grands prix. Et lors des Jeux Olympiques, surtout.
Eh bien, merci beaucoup, Jonathan. Et ça fait quand même parfois chaud au cœur aussi de voir que la Hatikva n'est pas conspuée dans un pays qui, traditionnellement, n'était pas spécialement acquis à la cause israélienne. Je rappelle quand même qu'au niveau du sport, il faut parfois oublier la politique et que les sportifs n'ont rien à voir avec la géopolitique mondiale. Il faudrait le rappeler à certains décérébrés qui abordent et qui sont dans tous les stades du monde.